Chapitre 32. Le lendemain après-midi, Maria fut tout excitée par le second visiteur de Martin. Mais cette fois, elle ne perdit pas la tête et fit à Brissenden les honneurs du salon. « J'espère que je ne vous dérange pas, » commença Brissenden. « Non, non, pas du tout, » répondit Martin en lui serrant la main. Il lui proposa sa chaise solitaire et s'assit sur le lit. « Mais comment avez-vous su où j'habitais ?»« J'ai appelé chez les Morse. C'est Miss Morse qui m'a répondu, et me voici. » Il piocha dans la poche de son pardessus et jeta un mince volume sur la table. « Voilà un livre. Le livre d'un poète. Lisez-le et gardez-le. » Et, pour couper court aux protestations de Martin, « Que voulez-vous que je fasse de tous mes livres? J'ai encore eu une hémorragie ce matin. »« Vous avez du whisky ?»« Non, bien sûr. Attendez une minute. » Il sortit. Martin regarda sa longue silhouette descendre les marches du perron et, comme Brissenden se retournait pour fermer le portail, remarqua avec tristesse la voussure de ses épaules, qui avait dû être large autrefois et qui, à présent, semblait recroquevillée sur un thorax atrophié. Il prit deux gobelets et se mit à feuilleter le livre, le dernier recueil d'Henry Vaughan Marlowe. « Pas de scotch, » annonça Brissenden à son retour. « Le bandit ne vend que du whisky américain. En voici toujours un quart. » « Je vais envoyer un des gosses chercher des citrons et nous ferons un grog, » proposa Martin. « Dites, » poursuivit-il en montrant le recueil de poèmes, « je me demande ce qu'un livre comme celui-là peut rapporter à Marlowe. » « Une cinquantaine de dollars. Et encore, il pourra s'estimer heureux s'il rentre dans ses fonds et s'il arrive à persuader un éditeur de le diffuser. » « Alors, on ne peut pas vivre de sa poésie ?» La consternation se lisait sur le visage de Martin. « Certes non. C'est un attrape-nigaud. Avec des chansons et des comptines, oui. Il y a Bruce, Virginia Spring, Sedgwick. Ils s'en sortent très bien. Mais la poésie. Vous savez comment Vaughan Marlowe gagne sa croûte ? En faisant la classe à des cancres en Pennsylvanie. Vous parlez d'un calvaire ? Je n'échangerai pas ma place contre la sienne, même s'il en avait encore pour 50 ans à vivre. Et pourtant son œuvre tranche sur la production contemporaine comme un rubis sur un rang de carottes. Et ce que les critiques peuvent écrire sur lui ? Des pantins, tous autant qu'ils sont. « Ce sont trop souvent les gens qui ne savent pas écrire qui écrivent sur ceux qui savent, » approuva Martin. « J'ai été terrifié par toutes les âneries qu'on a débitées sur Stevenson et son œuvre. « Des goules et des harpies !» lança Brissenden en grinçant des dents. « Ouais, je connais cette engeance. Ils l'ont chipoté avec complaisance pour sa lettre au père Damien. Ils l'ont disséqué, soupesé, mesuré avec le maître étalon de leur misérable ego. C'est ça, excellente formule. Ils ont bavé sur le vrai, le beau, le bien, pour finalement lui taper dans le dos en disant « Bon chien, Fido !» Pouah ! Des mandibules radoteuses, comme les a appelées Richard Rilf, la nuit de sa mort. Chipoté sur une poussière d'étoiles, s'emporta Martin, sur le sillage lumineux d'une comète. J'ai écrit un pamphlet sur eux, sur les critiques, les revuistes, plutôt. « Montrez-moi ça !» supplia Brissenden. Martin déterra une copie au carbone de poussière d'étoiles, et pendant qu'il lisait, Brissenden pouffa en se frottant les mains, oubliant de boire son grog. « Vous me faites vous-même l'effet d'une poussière d'étoiles jetée au milieu de gnomes bigleux, » commenta-t-il pour conclure. « Évidemment, ça a été refusé par tous les magazines. » Martin consulta son carnet. « Par 27 magazines exactement. » Le chaleureux éclat de rire de Brissenden se termina en quinte de toux. « Ne me dites pas que vous n'avez jamais taquiné la muse, » reprit-il essoufflé. « Montrez-moi quelques vers. » Ne les lisez pas maintenant. J'ai envie de discuter avec vous. Je vous en ferai un paquet que vous pourrez emporter chez vous. » Brissenden repartit avec le cycle d'amour et la pairie et la perle. Il revint le lendemain et salua Martin d'un « J'en veux encore. » Non seulement il assura à Martin qu'il était un poète, mais Martin apprit que Brissenden en était un aussi. Il fut époustouflé par la qualité de ses vers et stupéfait que ceux-ci n'eussent jamais été soumis à un comité de lecture. « La peste soit des magazines, » dit-il à Martin, qui se proposait déjà de lui servir d'intermédiaire auprès des rédacteurs. « Chérissez la beauté pour elle-même et oubliez les magazines. Retournez à vos bateaux. C'est le conseil que je vous donne, Martin Eden. Que cherchez-vous dans ces cités malsaines et pourries ? Vous vous videz de votre sang en prostituant la beauté pour le compte de ces bradeurs de sous-littérature. Quelle était déjà cette formule que vous m'avez citée l'autre jour ? Ah oui, l'homme, dernier des éphémères. Eh bien, qu'avez-vous besoin de gloire, vous, dernier des éphémères? La gloire vous empoisonnera. Vous êtes trop simple, trop pur, trop rationnel pour prospérer dans cette mélasse. J'espère que vous ne vendrez jamais un seul verre aux revues. La beauté doit être votre seule maîtresse. Servez-la et maudissez la multitude. La réussite, la belle affaire. Mais la réussite, elle est là, devant vos yeux, dans votre sonnet sur Stevenson, qui surpasse Apparition d'Henley, dans votre cycle d'amour et vos poèmes marins. Ce n'est pas le succès qui vous procurera le bonheur, mais l'écriture, je sais de quoi je parle, vous le savez aussi. La beauté vous fait mal. C'est une souffrance éternelle, une plaie qui ne guérit pas, une lame de feu. Pourquoi courtiser les revues? Que la beauté soit votre seule fin. Pourquoi vouloir la monnayer? De toute façon, vous n'y arriverez pas. 10 000 pages de magazine ne valent pas un seul vers de Keats. Laissez là la gloire et la fortune, embarquez-vous demain sur un bateau et reprenez la mer. Ce n'est pas pour la gloire, c'est pour l'amour, fit Martin en riant. L'amour ne semble avoir aucune place dans votre univers. Dans le mien, la beauté est la servante de l'amour. Brissenden le regarda avec pitié et admiration à la fois. Comme vous êtes jeune, Martin, si jeune. Vous volerez haut, mais vos ailes sont d'une gaze toute fine, d'une teinte toute délicate. Ne les abîmez pas. Mais vous les avez déjà abîmées. C'est pour glorifier quelques jupons que vous avez composé ce cycle d'amour, et c'est bien dommage. Pour glorifier l'amour en même temps que le jupon, précisa Martin avec un sourire. La sagesse du fou. Le haschich et les paradis artificiels m'ont enseigné cette philosophie aussi. Mais prenez garde, ces cités bourgeoises vous tueront. Regardez ce repère de faucheton où je vous ai rencontré, tous pourris. Comment voulez-vous rester sain d'esprit dans une atmosphère pareille? C'est dégradant. Il n'y en a pas un homme ou femme qui vaille quelque chose dans toute cette clique. Ce ne sont que tubes digestifs qui n'ont pas plus de sens artistique que des mollusques et qui... Il s'arrêta net et regarda Martin. Tout à coup, dans un éclair, il venait de comprendre la situation. Son visage prit une expression horrifiée. « Et vous avez écrit ce sublime cycle d'amour pour cette pâle greluche fripée ?» À peine eut-il achevé sa phrase que la main droite de Martin le saisit à la gorge comme une tenaille et le secoua à lui faire claquer des dents. Mais Martin ne vit aucune peur dans ses yeux, rien qu'une attente moqueuse et malicieuse. Il se maîtrisa, plaqua Brissenden sur le lit et le relâcha. Brissenden, haletant, chercha à reprendre son souffle, puis pouffa. « J'aurais été votre obligé pour l'éternité si vous m'aviez tué, » dit-il. « J'ai les nerfs à fleur de peau en ce moment, excusez-moi, » fit Martin. « J'espère que je ne vous ai pas fait mal. Tenez, je vais vous préparer un autre grog. »« Ah, jeune grec que vous êtes, » poursuivit Brissenden. Vous rendez-vous seulement compte de la chance que vous avez d'être aussi bien bâti? Vous êtes diablement fort. Une jeune panthère, un lionceau. Mais attendez un peu. Un tel physique se paie. Que voulez-vous dire? Demanda Martin avec curiosité en lui tendant un verre. Là, avalez ça et vous irez mieux. À cause... Brissenden but une gorgée de grog et sembla trouver le breuvage à son goût. À cause des femmes. Elles vous tourmenteront jusqu'à votre mort, comme elles le font déjà, à n'en point douter. Maintenant, inutile de m'étrangler, je dirai ce que j'ai à dire. C'est indubitablement votre premier amour, mais, de grâce, choisissez mieux la prochaine fois. Au nom du ciel, qu'attendez-vous d'une fille de la bourgeoisie? Laissez-les où elles sont. Séduisez donc une femme délurée et enflammée qui rit de la vie, se moque de la mort et sait aimer. Ces femmes-là vous aimeront 1000 fois mieux que les pusillanimes ou à blanche de la bourgeoisie. Pusillanimes? Parfaitement, pusillanimes. Elles régurgitent la petite morale dont on les a gavées et ont peur de vivre. Oh, elles vous aimeront, Martin, mais pas au point de renoncer à leurs préjugés. Ce qu'il vous faut, c'est l'abandon sublime, la liberté de l'âme, les papillons flamboyants et non les mouches grises. Et vous vous lasserez d'elles aussi, de toutes les femmes, si vous avez la malchance de vivre. Mais vous ne vivrez pas. Vous ne retournerez pas à vos bateaux et à votre océan. Vous continuerez à traîner vos guêtres dans ces cités de pestiférés jusqu'à ce que vos os pourrissent et vous y mourrez. Vous pouvez me sermonner, vous ne me convaincrez pas. Après tout, vous n'avez que la sagesse de votre tempérament, et mon tempérament est aussi obstiné que le vôtre. » Ils étaient en désaccord sur l'amour, les magazines et maintes autres choses, mais ils s'aimaient bien. Martin éprouvait même pour lui une sympathie profonde. Ils se virent tous les jours. Brissenden restait chaque fois une heure ou plus dans la petite chambre de Martin. Il n'arrivait jamais sans son quart de whisky, et lorsqu'ils dînaient ensemble en ville, ils buvaient du scotch soda tout au long du repas. C'était toujours lui qui payait, et ce fut grâce à lui que Martin se familiarisa avec les finesses de la gastronomie, but du champagne pour la première fois et découvrit le vin du Rhin. Mais Brissenden demeurait une énigme. Malgré son visage d'ascète et sa santé défaillante, c'était un jouisseur. Il ne craignait pas la mort, et tout en regardant la vie avec un détachement amer, il l'aimait passionnément, comme peut l'aimer un mourant. Il était possédé d'un désir fou de vivre, de vibrer, de « creuser mon petit trou dans la poussière cosmique d'où je viens », comme il le dit lui-même un jour. Il avait tâté à la drogue et fait toutes sortes de choses étranges pour expérimenter des sensations nouvelles. Il confia à Martin qu'il lui était déjà arrivé de rester 3 jours sans boire, délibérément, pour éprouver les exquises délices de l'assouvissement de la soif. Qui était-il ? Qu'était-il ? Martin ne le sut jamais. C'était un homme sans passé, avec pour tout avenir la tombe imminente et la fureur de vivre pour seul présent.